bonjour. Tu es l'instigatrice d'un projet, un très beau projet, une journée d'études qui s'appelle « L'intimité à l'épreuve du numérique ». Et le podcast qu'on va entendre aujourd'hui, c'est la conclusion, on pourrait dire, de cette journée-là. Pourrais-tu nous parler du projet dans son ensemble en quelques mots?
En fait, la journée d'études, c'est une conclusion à la première étape du projet qui voulait explorer la question de l'intimité à l'épreuve du numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive de l'intimité dans un contexte, bon, comme on sait, où les réseaux sociaux nous encouragent à mettre en ligne, à révéler des aspects de notre intimité comme on ne l'a jamais fait avant, et aussi dans un contexte où on vient chercher de l'information sur notre vie, souvent même à notre insu. Donc, c'était de réfléchir à ça, mais sans nécessairement avoir une posture de jugement, sans nécessairement avoir une posture en surplomb par rapport à cette réalité-là, puis aux gens qui s'adonnent à l'expression de leur ce qui nous apparaît comme l'intimité sur ces réseaux-là. Donc, ça, c'est un peu le point de départ. On a eu une subvention du FRQSC pour mener à terme ce projet-là, qui a été formulé puis réalisé dans le cadre du GRISC, le groupe de recherche et d'information sur la surveillance au quotidien. Avec les collègues Marc Ménard et André Mondou, on a donc fait cette demande. On a mené une recherche qui se voulait une recherche création, donc qui avait un volet théorique et un volet plus, effectivement, création, dans lequel devaient se réaliser plusieurs courts-métrages qui seraient ensuite mis en ligne sur un site web et qui a donné lieu à cette journée d'études au mois de juin.
Alors, dans le podcast qu'on va entendre, Diane, je te présente comme une créatrice parce qu'en fait, tu es une collègue et toute la journée, c'était clair qu'on était dans un contexte académique. Alors, durant le podcast, j'ai pas insisté sur ton travail plus académique. Tu es professeur à l'École des médias, professeur en études cinématographiques et en recherche-création, en fait, hein, dans le domaine du cinéma et de l'image en mouvement. Tu fais aussi partie du LabDoc, qui est un laboratoire, j'allais presque dire un laboratoire vivant, mais sur le documentaire.
Je suis professeur. J'ai été embauchée comme professeur spécialisé sur les pratiques documentaires. Donc, j'ai enseigné le cinéma documentaire. J'ai encadré les étudiants dans leur production documentaire au niveau du bac cinéma pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai continué à œuvrer dans le programme médias numériques. Et j'enseigne également au deuxième et troisième cycle des cours qui tournent autour du documentaire et aussi, comme là cette année, je donne un cours sur les approches expérimentales des images en mouvement. Donc, le documentaire, mais comme c'est un genre qui se confond de plus en plus avec d'autres genres, avec d'autres langages, donc ça m'intéresse beaucoup de réfléchir aussi à des approches expérimentales. Ce qu'on fait, entre autres, au LabDoc, c'est effectivement de réfléchir à toutes les nouvelles pratiques du documentaire et comment ça transforme notre façon de penser la création documentaire, mais aussi comment ça transforme notre façon de penser la théorie, comment on peut appréhender ces objets-là, ces objets qui sont, par exemple, les œuvres interactives, les œuvres immersives.
C'est intéressant parce que par rapport au thème de la journée d'études, l'intimité à l'épreuve du numérique, on a constaté lors de nos discussions que le numérique permet évidemment à l'usager de faire ses propres montages. Une représentation de soi-même à partir d'un montage audiovisuel. Et en fait, ça recoupe un peu ça. Il y a une espèce de forme d'auto-documentaire dans ce que... Je dis ça avec une semi-ironie. dans ce que font les gens, comme ça, les usagers du numérique.
Oui, on pourrait dire ça. J'avoue que je n'avais pas réfléchi. Mais c'est effectivement, il y a une forme d'auto-mise en scène. Hein? Ouais. Ça, c'est sûr. Une forme d'auto-mise en scène, est-ce que c'est jusqu'à quel point c'est, il y a aussi beaucoup de fiction dans cette façon de se mettre, de se représenter sur les médias sociaux. Mais c'est sûr que l'observation de ces mises en scène et de ces montages, ça donne aussi, ça finit par prendre une valeur documentaire. C'est, je donne pour exemple ce que fait Dominique Gagnon, par exemple, avec le montage d'images et de performances qui ont été faites pour le web, mais pas du tout dans un but documentaire. Alors effectivement, peut-être que par là, on peut penser que... Puis il y a d'autres artistes comme Nathalie Vauchine qui était présente à cette journée d'études. Peut-être pas dans le travail qu'elle a présenté cette journée-là, mais dans ses travaux antérieurs, elle fait aussi un montage de certaines publications sur le web autour de certaines thématiques, sans intervenir d'aucune manière autre que de les mettre ensemble. Et effectivement, ça nous donne des portraits de ce qu'est l'Amérique du Nord aujourd'hui, ou probablement pas très différente de ce qu'est le Canada aussi, sur certains aspects.
Alors, si tu es d'accord, Diane, lançons-nous vers cette écoute de la discussion qui a clôturé cette journée, l'intimité à l'épreuve du numérique. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Discussion sur la recherche-création dans le cadre de la journée « L'intimité à l'épreuve du numérique » organisée par Diane Poitras. Louis-Claude Paquin, Lynn Hughes, André-Éric Létourneau, Radhanta Gagnon, Gaël Scali, Marjolaine Bellan. Musique, Philippe Aubert-Gauthier. Une production d'Hexagramme.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis André-Éric Létourneau. Et je suis en charge à la fois d'être le modérateur de cette table ronde et d'y participer. Et je vais commencer par... je cherche...
Lynn Hughes.
Sur mon écran. J'ai parcouru ta biographie et j'ai appris des choses que je ne savais pas et fascinantes. Tu es né à Vancouver, mais tu as vécu en Afrique une partie de ta vie. Tu t'es intéressé beaucoup aux mathématiques et à l'art, au rapport entre l'art et les mathématiques. Et tu as commencé ta carrière artistique comme peintre, avec des belles expositions, des œuvres qui se trouvent dans des collections importantes. Et puis, il y a un moment dans ta carrière où tu t'es éloigné de la peinture et tu as entrepris une démarche plus expérimentale vers le numérique, notamment les jeux vidéo. Comment s'est fait cette transition-là? Est-ce que c'était un désir d'infiltrer quelque chose qui relevait plus de la culture populaire que le jeu vidéo? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que le jeu vidéo offrait des possibilités qui te semblaient être les meilleures pour toi comme artiste au moment où tu te trouvais dans ta démarche?
Je pense que je ne voulais pas passer à côté de ce qui était en train d'arriver parce qu'il y a une énorme accélération et d'être dans la peinture pour moi personnellement, c'est pas la même chose pour toutes les peintres. Mais pour moi, c'était absolument nécessaire d'aller vers quelque chose qui allait me mettre plus en contact avec le changement actuel. Mais aussi, c'était vraiment beaucoup par rapport au sujet d'aujourd'hui. Là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette emphase sur le non-individuel, sur l'échange inter-individuel. Toutes ces choses-là, je pense que ce que je vais expliquer très, très brièvement. Je ne suis pas dans les jeux vidéo comme vous pouvez peut-être penser. Je fais des jeux hybrides, numériques et physiques. Donc, en fait, j'ai passé mon temps, la plupart du temps, à éviter l'écran. Donc, l'idée, c'était de faire des jeux numériques sans écran. Donc, vraiment corporel, etc.
Tout à fait. Je vais juste terminer ta présentation en mentionnant quand même que tu as été commissaire d'un événement qui s'appelle Coefficient d'intimité, qui a eu lieu à Optica. Donc, c'est un sujet qui t'intéresse depuis longtemps et tu es aussi membre depuis, je pense, presque le début, sinon le début, oui. Tu es un membre d'Hexagram, qui était un regroupement stratégique, un réseau, centre de recherche et maintenant milieu à Concordia, dont tu es une des cofondatrices. Louis-Claude Paquin, l'incontournable théoricien de la recherche-création, qui est aussi praticien, parce que je sais que tu travailles le bois aussi, Louis-Claude. Tu fais des meubles, tu crées des objets. Ça, c'est une dimension de ton travail qu'on connaît moins, mais qui, je crois, est interrelié aussi avec ta pensée, parce que tu es quelqu'un qui s'intéresse aussi à la cognition incarnée, donc à l'embodiment et comment la pensée se traduit dans le geste et dans le corps. Et tu as publié d'innombrables et fascinants écrits que tu mets à la disposition de tous et toutes sur un site web. Donc, tu es un académicien avec un petit côté punk qui veut mettre un peu à la disposition de toutes et tous le fruit de tes recherches. Ceci dit, tu as quand même publié dans pas mal de revues et dans des livres, dont Art, Performance, Manœuvre et Coefficient de Visibilité, ouvrage que j'ai eu l'honneur de co-diriger avec Michel Collet pour les presses du réel il y a à peu près 2 ans.
Merci beaucoup, André. Éric, ça me fait plaisir de t'entendre et puis d'entendre des collègues comme ça faire un hommage. Donc, oui, effectivement, la décision de diffuser mes textes, j'appelle ça maintenant des projets d'écriture qui sont pas tout à fait terminés, qui sont en devenir et puis que j'abandonne pour d'autres projets au fur et à mesure. Pour moi, c'est un geste, je dirais, politique parce que déjà, on est très bien payé et puis de diffuser largement la pensée. Pour moi, c'est quelque chose qui est un geste affirmé. Et puis, quand on nous demande de publier, on nous demande de retirer l'ensemble de tous les textes qui sont disponibles. Donc, ma dernière publication aux presses de l'Université du Québec, il a fallu que je fouille un peu partout pour trouver des endroits où mes textes étaient déposés pour qu'ils puissent être publiés. Sinon, ils refusaient de publier. Donc, ça m'a conforté dans mes choix de ne plus publier vraiment. Donc, voilà.
Alors, tu es professeur à l'École des médias, tu es membre d'Hexagramme aussi. J'ai oublié de mentionner que Lynn est professeur à l'Université Concordia. Pardon, Lynn. Et enfin, la dernière, et non la moindre, Diane Poitras, qui a réalisé de magnifiques films, dont le dernier s'appelle Nuit, qui est vraiment très, très beau. Et antérieurement, L'alchimiste et l'enlumineur, La voisine et un léger vertige. Diane, qui est réputée dans le monde du cinéma comme créatrice et comme chercheur. Je lancerai en fait la table ronde. En fait, c'était assez ouvert, hein? C'était sur la recherche-création. Et je m'attends à ce que vous réagissiez par rapport à vos pratiques et à vos démarches respectives. Lynn, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à compléter, surtout sur les travaux récents que tu as entrepris sur des jeux, le terme liveness en anglais. Et j'ai réussi à le traduire par véracité, caractère vivant, effet de présence du vivant, théâtre participatif, les LARPs, Live Action Role Playing Games, et comme tu le mentionnais plus tôt, des jeux liés à des interfaces physiques, donc des jeux numériques, mais dont le mode d'usage principal est physique. Alors, peux-tu peut-être un peu nous parler davantage de ta recherche actuelle?
Lynn Hughes.
En fait, je voulais juste essayer de connecter ça à ce que, un petit peu à ce certains ont dit aujourd'hui. En fait, nous travaillons parce que c'est une équipe qui travaille entre le théâtre participatif, les jeux numériques et, comme vous venez de dire, les Live Action Role Playing Games. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent ça, mais c'est des jeux qui sont joués en communauté. Moi, je m'intéresse à ceux qui sont, on appelle ça nordique, c'est la tradition scandinave de ça, où vraiment, ça peut être des jeux, c'est un peu comme des jeux grandeur nature, mais les gens qui connaissent ça ici pensent toujours à la reconstruction historique et des épées, des affaires comme ça, et c'est vraiment pas ça. Donc, ça peut être des sujets très sociaux, toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui est intéressant là pour moi, c'est que là, depuis que je travaille avec des gens au théâtre, mais c'est quand même le théâtre participatif, mais je me rends compte qu'il y a une grande différence avec les gens qui aiment des jeux. Donc, peut-être que ça peut sembler évident. Mais c'est que le théâtre a quand même, c'est préécrit si on veut. Donc, même s'il y a de la participation, et ça peut être un petit peu ou même beaucoup, ça a tendance à pousser les participants vers la sortie, vers la chose qui a été planifiée, si on veut. Tandis que dans les jeux, il s'agit de donner des choix. Évidemment, ça peut être des choix qui sont pas très intéressants ou ça peut être des choix, des vrais choix. Donc, nous, on essaie vraiment de concevoir des jeux où les participants ont des vrais choix. Évidemment, ça peut s'en aller vers le chaos. Donc, il faut quand même accepter qu'on n'est pas en train de contrôler tout à fait ce qui peut arriver. Mais pour moi, ça, c'est très, très important. On appelle ça, vous connaissez le mot, l'émergence. Donc, moi, c'était le mot que je voulais ajouter à la discussion aujourd'hui parce que c'est vraiment l'idée que quand il y a une diversité, une présence vive, une intimité, c'est que il y a quelque chose qui peut émerger, c'est-à-dire on ne contrôle pas l'intimité. Moi, je parle d'intimité entre les gens. Là, je parle de gens qui vont jouer ensemble. Mais l'idée vraiment, c'est qu'il y a des négociations. Dans le live action role playing game nordique, il y a vraiment des négociations constantes. Donc, par exemple, on peut avoir toute une histoire qui est préécrite, mais les gens qui vont jouer ne sont pas des acteurs, il n'y a pas d'acteurs nulle part. Donc, les gens savent déjà ce qui va se passer, mais il y a toute la liberté dans les interstices. Entre les événements du jeu, il y a toute la liberté, mais ce n'est pas une liberté qui est préécrite. C'est une liberté de venir avoir une rencontre avec quelqu'un d'autre ou pas, mais ça ouvre un espace entre les gens. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans la tradition nordique aussi, c'est qu'ils ont tout un système de code pour la sécurité, safe spaces, etc. Donc, il y a toutes sortes de codes pour rendre les gens confortables. Parce que l'idée, c'est que ça ne doit jamais être menaçant parce qu'on n'est pas porté à vraiment expérimenter avec d'autres personnes si on a peur. Donc, si on pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment déraper de façon physique ou émotionnelle, ça ne conduit pas à une participation libre et intéressante. Donc, c'est vraiment cette idée d'être rassemblé entre des gens qui partagent une façon de faire, qui savent à l'avance ce qu'ils vont faire en termes de des événements dans le temps. Et qui vont pouvoir, après ça, élaborer le rapport l'un avec l'autre entre tous ces événements-là et autour de ces événements-là. Mais ce n'est pas préécrit, donc il y a une émergence. Et pour moi, c'est vraiment cette idée dans les jeux qui peut avoir une émergence, quelque chose qui n'est pas préécrit, qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Là, on parle là, de situations avec d'autres personnes, donc sociales. Donc, c'est vraiment cette idée de cette intimité qui a été évoquée par plusieurs personnes aujourd'hui pour moi, inter-individuelle. mais pour moi, je voulais juste souligner cette idée de l'émergence, cette idée que maintenant j'apprécie beaucoup, maintenant que je suis plus proche du théâtre, j'apprécie beaucoup. Et c'est très complexe l'émergence. Quand on fait ça physiquement avec une communauté, c'est pas facile à faire, mais c'est passionnant à faire.
Et ce qui est intéressant, et tu me corrigeras si je me trompe, Lynn, c'est que les personnes qui jouent à ce genre de jeu, c'est une communauté déjà, alors ils peuvent se connaître antérieurement parce qu'ils ont joué à d'autres jeux avant, j'imagine. Donc, il y a des gens qui ont déjà des liens, des relations qui permettent l'émergence d'une certaine intimité dans un nouveau jeu, puisqu'ils se sont déjà connus avant ou ils se connaissent depuis un certain temps, mais toujours dans ce cadre-là très spécifique de jouer. Et c'est comme si le fait de jouer permettait l'émergence de cette intimité-là.
Et ça peut être des sujets, ça peut être 2 heures, puis un sujet très léger, ou ça peut être pendant des mois. Et par exemple, il y en a un qui est très connu sur le sida. C'est ça, c'est vraiment cette espèce d'ouverture entre les gens. Mais c'est pas nécessairement qu'on connaît tout le monde. On connaît la façon de faire, la façon de jouer. Donc, les codes, si on veut. Par exemple, il y a des codes qu'on a très, très simples. C'est des codes pendant qu'on joue, qui prend pas d'effort. Donc, par exemple, je pense que j'oublie maintenant les codes parce que je fais pas de LARP nordique encore. Je fais autre chose. Mais, par exemple, je pense que si on regarde en bas, de façon très délibérée, ça veut dire, moi, je veux pas faire ça. Donc, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, non, je ne veux pas faire ça. Tout le monde qui est là sait qu'il y a des codes très, très simples, très subtils qui gèrent le jeu. Et ça laisse cet espace entre les individus où il peut émerger une espèce d'intimité sociale, si on veut.
Diane Poitras.
Moi, j'avais des questions. Aline, tu nous avais parlé de négociation, tu as fait allusion à ça aujourd'hui encore, négociation versus pointage. Tu disais les Finlandais ou comment dit-on, les Scandinaves ont instauré une pratique de négociation, alors que du côté nord-américain, c'est plus l'idée du pointage. J'aimerais ça t'entendre développer un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit?
Mais donc, l'exemple le plus simple à décrire, c'est que si on tue quelqu'un dans un LARP américain, il y a un certain nombre de points, puis moi je perds des points, toi tu gagnes des points. Mais c'est pas du tout comme ça les LARP nordiques. On peut à la limite même dire non, là je m'en pas. En fait, ce qui est arrivé, c'est telle et telle et telle et telle chose. Donc, tout est négociable. Tous ces codes qui vont gérer le bien-être des joueurs dans le jeu.
Est-ce qu'il y a des gagnants dans ces jeux?
Oh, il n'y a pas de gagnants.
Non, mais j'imagine que lorsqu'on attache une idée de pointage, c'est parce
Ah oui,
qu'on.
mais dans les LARP américains, oui, il y en a. Mais je ne devrais pas non plus même ça dire ça parce que c'est tellement varié, c'est vraiment. C'est une chose énorme. Quand on ne connaît pas ça, on pense, on ne sait pas, mais c'est comme un troupeau d'éléphants, tellement il y en a. Et chacun est différent. C'est vraiment très, 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 très varié aussi.
Ce que j'allais dire, c'est que ce que je trouve intéressant dans la proposition initiale, c'est cette notion de liberté. Je trouve que ça détourne complètement l'idée du jeu. Moi, je ne connais pas beaucoup les jeux, mais habituellement, il y a des règles très strictes. Ou bien, ce à quoi ça me fait penser, c'est l'interactivité sur le web. Hein. On nous dit, ah, vous avez des choix, vous pouvez faire ci, faire ça. Oui, mais on s'aperçoit très vite que les choix, ils sont déjà prédéterminés. Donc, on a les choix entre une cage ou une autre. Donc, cette idée de liberté qui est introduite dans vos jeux, je trouve que ça détourne justement cette prétention qu'on a dans l'interactivité, par exemple. Il y a vraiment, à ce que je comprends, des échanges possibles. Et c'est probablement pour ça aussi qu'il y a la possibilité de ce que tu appelles l'émergence et que je rattache, moi, à ce que j'identifie aujourd'hui comme, ou je formulais comme créer du nouveau. Il y a une possibilité de créer du futur lorsqu'il y a vraiment cette relation-là intime.
Lynn Hughes.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire totalement ce qui va arriver. C'est ça. En fait, il y a des jeux où il y a des règles très contraignantes, mais c'est pas en général, l'idée d'un jeu, c'est qu'il y a du choix. Donc, tout ce qu'on appelle un jeu, ça ne veut pas dire que ça remplit les critères pour un jeu intéressant. Mais ça, moi, vraiment, je me suis rendu compte cette année, en fait, à travers nos rencontres virtuelles chaque semaine, Parce que là, nous sommes en train, le groupe de recherche, à faire un jeu physique qui va avoir, et numérique, qui va avoir lieu dans le public. Donc, c'est vraiment, ça a été étrange de faire ça cette année. Mais là, j'oublie où j'allais avec ça, mais c'est ça notre projet actuel.
Juste pour clarifier, Lynn, ces jeux, tu dis, ils sont physiques, il y a des codes physiques. Est-ce qu'ils sont en personne uniquement ou est-ce qu'ils peuvent être aussi sur le web avec une caméra? Comment ça se manipule? J'imagine qu'il y a une variété.
L'essentiel de ce qu'on veut faire, là, avec le gros projet, si on veut, ça va être public et physique. Et l'idée aussi, c'est que ça va être ouvert, c'est-à-dire qu'on ne va pas définir à l'avance qui peut jouer. Il faut que ce soit vraiment ouvert à qui veut jouer.
En fait, c'est juste pour savoir dans quel genre d'espace, c'est un peu là que je m'en allais. Est-ce que ça prend beaucoup d'espace? Est-ce qu'il faut que tu loues une terre? Comme dans certains jeux, je pense au fameux paintball dans la
Alors, première on va, comme ça, il y a on des va faire ça à l'intérieur d'un marché public, parce que c'est vraiment un jeu sur les échanges, sur l'idée d'échange et sur l'idée d'objet. C'est ça.
Mais c'est intéressant parce que le fait justement que ça soit libre, qu'il n'y ait pas d'objectif, qu'il n'y ait pas de gagnant, ça rappelle un peu ce qu'on appelait dans les années 90 les MOO, les Multi-User Object Oriented, qui étaient sous forme texte à l'époque pré-web. Puis ensuite Second Life, qui était justement des environnements où il n'y avait pas d'objectif a priori. Bon, Second Life s'est commercialisé par après, mais ça rappelle un peu ce genre d'environnement, mais là vraiment qui se manifesterait de manière physique et réelle, concrète et incarnée. Dans un environnement réel, avec tous les aléas que ça comporte aussi.
On va avoir des éléments en ligne ou par cellulaire, mais c'est pas la chose principale. Donc. Mais je veux pas non plus exagérer le fait que les règles sont pas là, parce que il peut avoir une forme. C'est-à-dire une forme, ça peut être très serré ou très très pas serré, très loose. Ou entre les deux. Nous, on essaie de faire quelque chose qui a beaucoup d'émergence. Donc, on verra. À voir.
Louis-Claude Paquin.
Là-dessus, moi, j'ai envie de transporter tout ça dans le monde de la recherche. Je suis tout à fait tout intéressant parce que si on considère que la recherche est un jeu avec des règles, OK, donc il y a des règles liées au financement, il y a des punitions, il y a des points bonis pour avoir bien exécuté les choses. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée d'émergence et d'espace de liberté. Puis là, je rejoins Diane et puis je te rejoins Lynn là-dessus. C'est vraiment l'idée du devenir. Moi, ce que je trouve intéressant, ce que j'essaie de pratiquer dernièrement, c'est une recherche par l'écriture et puis une recherche par l'écriture qui est en devenir, c'est-à-dire que je ne sais pas où je m'en vais. Je vais aller d'extrait, de conversation en conversation avec des auteurs pour les comprendre et puis ça va devenir mon projet d'écriture. Donc, si tu veux, je prends toute cette idée de jeu avec les renégociations des règles et tout ça et puis je nous dis pourquoi on ne ferait pas ça avec la recherche qualitative. Voilà.
C'est beau.
Je voulais peut-être revenir à la notion d'intimité. Quand on examine cette notion, on réalise qu'elle change de définition d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre, et que d'une culture à l'autre, les codes pour établir l'intimité ne sont pas nécessairement les mêmes. Et je pense que Lynn, tu l'as bien noté, que dans cet univers du jeu, il y a des codes spécifiques qui vont mener à des espaces d'intimité. Mais ensuite, la notion même d'intimité historiquement... varie. Tu sais, je repense à la fameuse correspondance entre Abélard et Héloïse, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de l'intimité. La quintessence de l'intimité dans ce cas-là, c'était la relation épistolaire. Alors qu'aujourd'hui, on ne verrait pas ça du tout comme ça. Et lorsque Diane souligne le fait que peut-être le numérique altère la notion d'intimité, moi, ma question, ce serait plutôt est-ce qu'elle n'est pas tout simplement en train, je parle des réseaux sociaux surtout, de transformer les modes par lesquels l'intimité est définie et perçue dans notre culture.
Je pense que c'est générationnel.
Lynn Hughes.
J'ai pensé quand Marjolaine parlait de l'écran, le fait qu'il y a des possibilités d'intimité dans l'écran. J'ai pensé aussi à toute la controverse sur avoir les cellulaires constamment quand on mange, etc., ou le fait que les ados, on peut voir des ados, surtout des jeunes ados, qui sont ensemble et qui sont ensemble, mais avec leur téléphone chacun. Et nous, pour nous, c'est comme horrible. Mais en fait, non. C'est une façon d'être ensemble qui est différente de ce que nous, on connaît. Moi je ne pense pas que c'est une non-intimité.
Aujourd'hui, je faisais cette observation à l'écoute des différentes présentations que l'intimité passe par l'agentivité entre des assemblages d'objets, en fait, techniques. Dans le cas d'Abélard et Héloïse, c'est la lettre. Donc, c'est un assemblage entre le papier et la plume, probablement à l'époque, ou l'encrier. Et ensuite, aussi, les objets qui permettent aux lettres de circuler et de s'échanger. Puis je me disais, est-ce qu'il y a des modes d'intimité où il n'y a pas d'objets? Et pour arriver dans la situation intime, il faut un objet au préalable, en tout cas. Même si on est tout nu et qu'on n'a rien au milieu du désert, il faut d'abord s'y rendre dans ce désert avant d'avoir ce moment intime. Et je me disais, en fait, l'intimité est indissociable de l'existence et de l'usage des objets techniques, pour reprendre Simondon, ou des objets qui nous permettent justement de communiquer soit les uns avec les autres, soit par extension avec la nature, puisque l'objet technique, dans une perspective simondonienne et dans celle de le roi Gourand, c'est une manière de communiquer avec la nature. Donc, en fait, on entend souvent que les objets comme le cellulaire, justement, nuisent à cette intimité. En fait, ce sont des objets qui peuvent tout autant construire de nouvelles intimités.
André Mondou.
J'aimerais rebondir, Éric, sur ta perspective simondienne. C'est-à-dire que, intuitivement, on parle d'intimité comme quelque chose qui est là et qui arrive, qui est approprié, qui a son objet, mais c'est aussi une production, dans le sens que pour moi, l'intimité, c'est un rapport. Et ce rapport-là se déploie dans des conditions d'individuation, hein, dirait Simondon. Alors, il est reproduit. C'est pour ça que quand Mme Lynn nous parle d'émergence, de nouvelles conditions, quand tu parles du téléphone cellulaire, dans le fond, je pense que ce qui est important, ce qui m'intéresse, ce sont les modalités de cette émergence de l'intimité et comment celle-ci deviennent un peu comme chez Freytag, hein, des formes, des modes formels de reproduction de l'intimité. Et ça existe dans un flux, un devenir, dépendamment du genre de rapport. Puis à ce moment-là, ça serait de dire quels sont ces rapports qui mettent en quoi, hein, qui permettent, à, justement, pour prendre le terme de Mme Lynn, l'émergence de modèles formels, peut-être que ça sort comme ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, la piste serait de dire, bien, quels sont les modes formels d'intimité? Et là, je reprends, Éric, ce que tu disais, donc, parce que vu qu'il y a l'ancrage socio-historique, bon, bien, effectivement, ce rapport-là, il change. Hein? Il y a comme des régimes d'intimité, on pourrait dire. Puis à ce moment-là, bien, ce qui est intéressant avec le sujet, c'est que l'intimité, c'est un rapport à un autre. Hein? Il est là l'objet de l'intimité. Et je pense que d'avoir cette espèce de dialectique ou de transduction, hein, pour prendre les termes de Gilbert, c'est intéressant. Très intéressant à votre présentation. Merci.
Louis-Claude Paquin.
Moi, j'aimerais ça rebondir sur l'idée d'intimité. Quand Diane m'en a parlé dans une réunion préparatoire, ça m'a tout de suite sonné la cloche de l'enseignement de la recherche-création ou de l'enseignement de la création à proprement dit. C'est que si, en fait, l'idée, c'est qu'on intervient comme enseignant. Moi, je le fais depuis assez longtemps. Accessoirement, bon, j'écris un peu, mais ma job principale, c'est celle d'être enseignant. Et je le fais beaucoup avec des personnes en recherche-création. Et puis, je vais prendre une image, c'est que je demande aux personnes devant un groupe de se lancer à parler d'un projet qui n'existe pas encore. Donc, elles se rendent extrêmement vulnérables. Et puis, le succès de cet enseignement-là tient au fait qu'on crée une intimité de groupe. Pour moi, c'est un des facteurs qui est très, très, très important. C'est-à-dire que si on arrive, je vais vous donner un exemple très brutal, si on arrive et puis quelqu'un nous lance une idée, d'une intuition, et puis on dit, ben, c'est une idée de con, elle a été faite des tonnes de fois, eh bien, bam, là, on vient d'assommer l'oiseau en plein vol. Et puis, probablement qu'il ne se relèvera pas. Ou en tout cas, le cours vient de déraper. Quand ça devient confrontant, c'est très difficile. Donc, pour moi, l'intimité, c'est un climat à créer pour que les gens puissent, en groupe, déployer leur projet. Okay? Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est que je demande des récits de pratique. Et puis, les récits de pratique sont liés aux récits de vie. Hein? Donc, par de façon très ténue. Un n'est pas l'autre, on s'entend bien, mais c'est lié. Et puis, l'idée, en termes d'enseignants, c'est d'éviter que les gens déploient trop d'intimité de leur vie pour expliquer la création. Je donne un exemple, l'agression sexuelle qui peut avoir lieu et qui a pu susciter un projet d'œuvre. Okay, est-ce qu'on a besoin d'avoir le détail dans ce que j'appelle l'anecdote? Et puis, moi, je trouve qu'il y a une éthique de la part des enseignants où on doit arrêter des personnes, de dire on ne va pas jusque-là, on va tout de suite passer dans la symbolisation. Donc, ça, c'était l'autre aspect, de respecter l'intimité des gens qui sont en position de création. Et puis, la dernière réflexion que ça m'avait donnée, c'était... et je le donne le conseil aux personnes, c'est souvent d'aller vers l'autofiction. Quand on va trop dans l'intime, d'aller un peu dans l'autofiction qui fait que la personne qui reçoit de l'intimité, mais qui ne rend pas vulnérable nécessairement la personne qui la dévoile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est tout à fait vrai? Donc, la fiction, comme la symbolisation, m'apparaissent deux mécanismes très, très intéressants pour aller jouer dans cette zone qu'est l'intimité. Donc, voilà les quelques réflexions que j'avais à ce moment-ci en croisant la recherche-création avec l'idée d'intimité. Il y en a qui l'ont subi dans le groupe ici, là, quelques-unes l'ont subi.
Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est non seulement vrai en groupe, mais c'est vrai, c'est ce qu'on fait quand on devient psychothérapeute, ce qui était ma vie antérieure. On appelle l'alliance thérapeutique entre le thérapeute et le client, mot horrible, pardon, je préfère dire patient. Il y a cette alliance thérapeutique et cette intimité qui est encore une fois une certaine forme d'intimité très encadrée, mais qui permet aux gens d'avoir une certaine liberté et d'exprimer des choses qu'ils ne pourraient pas exprimer sinon. J'ai eu un flash ce matin. J'ai dit, l'intimité à l'épreuve du numérique, ça me rappelle quelque chose. Puis là, je me suis rappelé que j'avais participé à un événement et à un ouvrage qui s'appelle « Le temps à l'épreuve du numérique ». Il y a à peu près deux ans, à l'Université de Bordeaux-Montaigne, si je ne me trompe pas, avec Anne-Olga Rodionov qui dirigeait l'événement et la publication. Et je me disais, c'est intéressant, les titres, par accident, se trouvent assez proches l'un de l'autre. À l'épreuve, puis là, je dis « l'épreuve ». Et tout de suite, en pensant à l'épreuve, j'ai pensé à Ulysse et à l'Odyssée. Puis je me suis dit, mais quelle est la part d'intimité dans Ulysse? Parce que si le numérique est considéré comme une épreuve, ça c'est déjà très très intéressant, qu'une forme technique, on pourrait dire une manifestation technique, puisse être considérée comme une épreuve dans deux cas très très différents de la recherche, mais ce mot d'épreuve revient. Donc, pourquoi épreuve? Pourquoi épreuve est revenue comme ça deux fois, puis probablement ailleurs aussi? Alors, je pensais à l'Odyssée, puis je me disais quand même, dans l'Odyssée d'Ulysse, Ulysse et son équipe traversent une série d'épreuves, Et il y en a deux qui ont retenu mon attention. C'est l'épreuve du cyclope anthropophage qui s'appelle Polyphème. Alors, Ulysse et ses gars débarquent là, sur une île, l'île des Cyclopes, et se retrouvent dans la caverne de Polyphème. Et ils se mettent à voler un peu. Ils rentrent en fait chez ce Cyclope, dans son intimité, et lui volent de la nourriture. Et le Cyclope les attrape, et on devine ce qui arrive. Il y a toutes sortes de mésaventures pour pouvoir se sauver du Cyclope, qui est cannibale en passant, en plus. Alors, imaginez. Et d'autre part, une autre épreuve, là, qui est assez différente, c'est celle des sirènes. Les sirènes qui tentent d'attirer les hommes d'Ulysse sur le bateau, dans l'eau. Donc, d'une part, il y a cette idée de la séduction à travers les épreuves. Et d'autre part, il y a l'idée du monstre. Je vais l'appeler comme ça. Le monstre qui vient nous dévorer. Je me suis dit, ah tiens, ça me rappelle Facebook. On nous séduit près de sur Facebook. Et Facebook nous ramène là, et tout à coup, il y a des monstres qui viennent faire du bullying sur nos pages. Tu sais. Je sais, comme il y a cette espèce de dualité... Et je me suis dit, c'est peut-être là l'épreuve du numérique, c'est peut-être une épreuve affective dans laquelle notre intimité est perpétuellement remise en question, transformée. Parfois, elle est carrément violée, cette intimité-là. Et d'autres fois, cette technologie-là nous propose des nouvelles formes d'intimité. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé à Ulysse et à ses... Ensuite, évidemment, j'ai pensé à Pénélope, là, vous devinez...
Eric, ce qui est intéressant, c'est que tu touches aussi la question de la normativité. Là.
André Mondou.
Hein, la normativité qui est à la fois un joug disciplinaire au sujet, ça, c'est l'aspect monstrueux, et l'autre, c'est ce qu'on appelle aussi dans le désir d'être justement dans la norme. Et ça, c'est justement la séduction. Alors que, et là, je pense qu'on touche la frontière entre intimité et normativité. Et surtout que la deuxième va servir à rétroagir pour déterminer qu'est-ce qui est la norme d'intimité, surtout quand on veut tracer des frontières juridiques notamment, ou encore, comme Louis-Claude le disait, pratique une raison dans un cadre particulier. Hein, qu'est-ce qui est justement la norme, l'acceptable? Et tu parles du numérique, ben un giga, c'est gigantesque, ça vient de monstre. Alors, je pense que ça va en dire long déjà en partant. Merci.
Et ordinateur, l'étymologie vient d'ordonnateur, qui voulait dire Dieu.
Cybernétique, le capitaine de bateau, hein, celui qui avait le pouvoir d'acheter le trajet et déterminer le quand et le comment.
Peut-être que je reviendrai l'expression à l'épreuve de. Ce n'est pas innocent si c'est le titre qu'on a donné à ce projet-là, Intimité au pluriel à l'épreuve du numérique. Moi, je voyais un lien avec un autre ouvrage, un autre titre qui emprunte cette expression-là aussi, c'est Le réel à l'épreuve de l'écran. Le réel à l'épreuve de l'écran. C'est encore une fois questionner la réalité à travers une technologie, alors qu'avec l'intimité, on questionne François Niné. Merci Martin. Le réel à l'épreuve de l'écran, c'est François Niné. Donc, c'est questionner une réalité lorsqu'elle passe par la technologie de la même façon que, donc c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour le cinéma dit documentaire, et de la même façon, je me disais, l'intimité, je ne la vois pas nécessairement comme tu semblais le dire, André-Éric, comme étant dévoyée par les technologies numériques. C'est plus que c'est une question, qu'est-ce qui arrive lorsqu'elle est à l'épreuve, lorsqu'on la met à l'épreuve de ces technologies-là. Ce n'est pas nous qui le faisons, ça s'est fait malgré nous. Et dans ce couple-là, une chose à l'épreuve d'autre chose, dans le cas de l'écran et dans le cas du numérique, il y a encore cette notion de, je reviens là-dessus, de relationnel, de public, espace public et politique. Et puis, je vous rappellerai d'ailleurs, j'ai découvert ça, je me souviens plus à quel moment, pendant la recherche, qu'on dit qu'au 18e siècle, je pense que c'est l'ami Fessel encore, au 18e siècle, en même temps qu'il y a eu l'émergence des grands journaux publics, là, peut-être pas quotidiens, mais les journaux, en même temps, il y a eu une émergence ou une effervescence de journaux intimes. Donc, c'est intéressant de voir comment à la fois tu as cette pratique de l'écriture intime et en même temps les journaux qui, eux, s'occupent de la sphère publique. Mais les journaux intimes, si on sait que c'est arrivé à ce moment-là, il y en avait sûrement avant, mais c'est qu'ils sont passés dans la sphère publique. Alors ça, je trouvais ça intéressant. Et l'idée aussi de l'épreuve, ben, c'est un peu comme ça rejoint ce qu'on disait plus tôt, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, hein? C'est pas fermé, c'est pas clos, c'est quelque chose qui se transforme. Et qu'est-ce que ça va donner? Ben, on ne sait pas encore.
Alors, si on disait, moi j'aime bien faire des permutations, l'intimité à l'épreuve du temps, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Puisqu'on sait que notre rapport au temps a été bouleversé par le numérique, et par conséquent, notre rapport à l'intimité tel qu'on la connaissait a été bouleversé par cette transformation, en fait, cette relation qu'on a avec le temps.
Peut-être qu'il faudrait dire l'intimité à la reconquête du temps, puisque, comme on le disait plus tôt, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps pour que se développe quelque chose de qui a du sens au niveau intime.
André Mondou.
Et même le rapport au temps est très sociopolitique. Hein? Je veux dire, Lélie disait des trains à l'heure, c'est ça le capitalisme. Hein? Alors, tu sais, le fait d'avoir une horloge, déjà, d'avoir des trains à l'heure, déjà, on n'est plus dans les carillons des moines là, avec les prières. Alors, le rapport au temps est lui-même, et moi, ce qui me préoccupe, pour rebondir sur ce que Eric dit, c'est que le rapport au temps en ce moment est dans le temps réel, une très grande vélocité. Ouais. Et là, ce n'est pas le temps d'une réflexivité, d'où l'intimité me semble, hein, comme retour sur soi, être une des conditions préalables de toute forme de réflexivité, que ce soit dans l'enseignement ou par rapport à quand je suis dans mon intimité. Donc, je me regarde moi-même sur moi-même. Hein, et ce rapport au temps-là, dans le temps réel, bien, c'est le temps du fonctionnement de la machine, c'est le temps de la jouissance, mais c'est pas le temps. Et c'est le temps aussi d'avoir des, je pense, de délaisser les médiations symboliques traditionnelles qui demandent un temps de va-et-vient pour tomber dans des, justement, ce qu'on appelle les affects maintenant. C'est quasiment behavioral, tu comprends? Je pèse sur le piton, j'ai telle énergie. Et ça c'est mon moi. Et là, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est en train de voir émerger des ersatz d'intimité, des proto-intimités, dans le fond, tu sais, qui sont pas de l'ordre de la réflexivité, mais du personnel aussi, et de voir s'il n'y a pas un risque de confondre les deux. Espérons que non.
Moi, je suis très, très d'accord avec ça.
Lynn Hughes.
Mais en même temps, je reviens toujours à essayer de me demander si, à quel niveau c'est plus complexe pour moi personnellement. Donc, encore une fois, c'est parce que j'étais dans le questionnement du cellulaire pendant le souper, etc. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'à certains moments, le cellulaire, évidemment, ça fait partie de la vitesse, de l'accélération. Et à d'autres moments, ça fait partie de c'est quoi en français? Wandering. C'est quand on rôde. Donc, toute l'idée de hyperlien, là où on suit un chemin qui n'est pas prévu non plus et on finit quelque part où c'est une perte de temps peut-être, mais c'est justement une perte de temps. C'est-à-dire, on n'est pas dans un temps accéléré nécessairement. Je sais que moi, j'ai déjà, en soupant, j'ai déjà trouvé qu'une heure et demie plus tard, nous avons passé à travers toutes sortes de choses incroyables. Hein? Et ça a été très, très riche et intéressant. Et ça me laisse des choses dans la tête pour le lendemain, etc. Donc ce n'est pas toujours non plus quelque chose qui est juste l'accélération pure et
simple. J'imagine avant, là, quand il fallait que j'aille chercher un magazine.
André Mondou.
À sortir, prendre le char, prendre à pied. Maintenant, je clique à une seconde. Alors, on pourrait dire que cette accélération-là a été normalisée et elle ne paraît même plus accéléré par rapport à l'hyper-accélération. Parce qu'en quelque part, de naviguer sur 3 journaux en 5-10 secondes, c'est déjà une production accélérée comparativement à ce qu'il y avait avant. Et là, ça se fait la question de est-ce que quand la normalisation est accélérée, bien, le nouveau repos, entre guillemets, est déjà accéléré, ce qui renforcerait la thèse de M. Rosa, hein, qu'on est dans l'accélération sociale d'une grande vélocité.
Je pense juste du fait que c'est pas nécessairement linéaire et qu'on peut utiliser ces dispositifs-là pour perdre du temps, c'est ça de la phrase, c'est-à-dire pour laisser aller le temps, en fait. En fait, ça arrive souvent, hein, peut-être trop souvent.
Ce qui est intéressant quand on vous écoute, en particulier Lynn et Louis-Claude, c'est que vous ouvrez des espaces qui permettent aux gens d'explorer l'intimité à travers le temps. Mais le temps et la notion d'espace, dans ce cas-ci, sont indissociables. Et quand on parlait justement des zones où on peut avoir une certaine forme d'errance de l'esprit, une certaine liberté, ça prend des espaces pour ça, ça prend des espaces physiques.
Je rajouterais deux éléments, le désir et le plaisir. Dans le cas d'Abélard et tout ça, quand la lettre prenait un mois à se rendre, il y avait le désir qui était prolongé. Bref, qu'advient-il du désir et du plaisir dans cette accélération, soi-disant?
Jouissance ou Claude?
Désir, plaisir.
Oui, mais l'accélération, ça devient de la jouissance, ici, maintenant. Et c'est la consommation de l'objet du désir, puis ça crée du manque. Parce qu'une fois que tu as joui, tu recommences. Et là, ça crée du roulement à vide.
Parle pour toi.
Non pas que j'en ai fait l'expérience personnelle dans mon âge, j'ai plus de l'ordre de la science-fiction, on t'entend.
Mais peut-être pour rebondir sur ce que disait Lynn tantôt, le fait de faire une activité qui a l'air d'être une perte de temps, alors qu'au contraire, ça ouvre toutes sortes de possibilités, de sujets, de discussions, de réflexions qui vont nous habiter après. Ça me fait penser un peu à ce que dit Elisabeth Gross lorsqu'elle dit... lorsqu'elle parle de la sélection sexuelle, qui est une activité en excès, inutile, non productive, c'est pas fait pour la reproduction, c'est pour le plaisir de l'esthétique, pour le plaisir du foisonnement, et c'est ça, je pense, qu'on essaie de se réapproprier, que les jeunes, en tout cas, se réapproprient avec ces appareils-là, et pour moi, l'intimité, c'est ça, effectivement, c'est une activité qui peut pas être utilitaire à court terme, mais ça ouvre des perspectives.
Louis-Claude Paquin.
Dans le monde francophone, il y avait Jean-Marie Schaeffer qui avait développé une théorie des signaux coûteux. Il expliquait comment les oiseaux utilisaient l'esthétique pour améliorer le nid et tout ça dans les rituels d'amour. Donc, il disait que c'est des signes coûteux. Donc, ça reprend la même idée qu'Elisabeth Gross, effectivement. Mm-hmm. Le surplus, l'abondance. C'est très lié à la création et puis à la...
J'ai envie de demander comment Elisabeth Gross verrait la recherche-création. C'est un peu parce que je trouve que même avec la recherche-création, on a besoin de... C'est pas fixe, c'est quelque chose qui devrait émerger, se développer à fur et à mesure que les choses changent autour de nous. Moi, je m'appelle au début de la recherche-création que, bien, au tout début, c'était pour que les artistes à l'université pouvaient avoir accès à l'argent aussi, parce que c'est de l'argent pour les universitaires, sauf que nous, on n'était pas là-dedans. Donc, ça a commencé comme ça. Puis après ça, avec les définitions, moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces définitions-là aussi. Et c'était toujours le compromis de ce que le FRQ ou le CRSH pouvaient accepter. Et c'était juste, je vais pousser un peu, puis à un moment donné, ça a arrêté là. Mais maintenant, de plus en plus, donc ça reste un peu académique comme définition toujours. Je sais que c'est pas la seule façon de voir à travers les fonds. Mais ça reste, ça reste un peu académique. Mais ce qui me frappe de plus en plus, c'est la façon dont c'est axé sur le verbe, sur le texte. Et là, de plus en plus, on est premièrement, on fait pas des textes, mais on fait des textes aussi, oui, mais c'est pas ça le cœur de ce qu'on fait. Mais aussi, maintenant qu'on parle de plus en plus de notre relation aux animaux, aux non-humains, et ça, donc, de plus en plus, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sensuel, beaucoup plus proche de nous, en fait. Beaucoup plus proche d'Elizabeth Gosse, de la création. Et moi, je trouve que la recherche création a besoin de courir après. De rattraper le sens sensuel de tout ça et ne pas rester dans l'idée qu'il faut pouvoir une espèce de démarche. C'est presque comme l'école secondaire, parfois, c'est l'idée qu'on enrobe, là je simplifie un peu, mais qu'on enrobe quelque chose de très essentiel dans quelque chose de textuel. Et il faut dire peut-être que pour les anglophones, c'est plus compliqué parce que c'est, comme on est très empirique culturellement, ça a toujours été un peu difficile d'y aller. De voir ça comme ça. Mais c'est vraiment maintenant que je trouve que les choses sont en train de changer radicalement et que la recherche-création, maintenant, on a une raison pour pousser la définition de la recherche-création vers d'autres horizons, vers les horizons qu'on commence à voir, qu'on voit.
Si vous me permettez d'intervenir, moi, on m'a demandé de définir la recherche-création et puis j'ai refusé d'être. Parce que pour moi, c'était une démarche très, très moderniste qui était d'enfermer, de réguler et tout ça. Et puis, je me suis rabattu sur l'idée de la pratique, donc des pratiques. Et puis, avec toute l'idée du tournant de la pratique, donc je fais rapidement. Pour moi, l'idée, c'est de dire que c'est des pratiques singulières. Qu'il n'y a pas une recherche-création, une forme de recherche-création à privilégier sur d'autres, c'est des pratiques singulières. Et puis, le défi, c'est de qualifier ces pratiques, que les personnes puissent, par du texte ou autrement, qualifier leurs pratiques. Et puis, c'est à partir de Chatzky que j'ai développé un modèle élargi où il nous dit, Chatzky, qu'une pratique, c'est quelque chose qui est un ensemble d'agir. Ça va bien. Il y a des agirs de recherche, des agirs de création qui sont incarnés. Donc, il y a un corps, une corporéité, avec une manière de parler du corps, des affects, etc., qui sont matériellement médiés. Donc, il y a une matérialité. Puis, je reviens là-dessus, comme tu disais, André-Éric, il y a toujours une médiation matérielle. Quel est le rapport du corps à la matière? Et puis, l'élément suivant, c'est toujours dans un contexte. Un contexte sociopolitique, un contexte culturel, familial, d'histoire de vie, etc. Et puis, je me suis permis d'ajouter un ingrédient qui était l'engagement. Donc, c'est une pratique engageante qui, à la fois, demande l'engagement de la personne et qui favorise l'engagement de la personne qui, disons, reçoit, assiste, expérimente, qui est de l'autre côté de la création. Donc, pour moi, l'idée, c'est pas de dire « ceci est » de la recherche création, parce que quand on dit « ceci est », ça implique que tout le reste n'en est pas. Mm-hmm. Oui? Donc, ce serait plutôt de dire, par rapport à ces critères-là ou d'autres, comment qualifier ma pratique? Et puis là, à ce moment-là, on a toutes sortes de pratiques liminales qui sont frontières entre la recherche-création, la participation, l'engagement citoyen, l'activisme, etc., etc. Est-ce que ça en est? Est-ce que ça n'en est pas? Moi, à la limite, on s'en fout. L'important, c'est d'être capable d'avoir une réflexivité, donc d'avoir un regard qu'on tourne sur sa pratique pour la qualifier et la rendre au clair. Pour moi, il est là l'enjeu. et non pas. Et puis l'idée après ça, c'est de les accumuler. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais c'est de les accumuler comme étant des pratiques tout aussi valables les unes que les autres. Donc, voilà en résumé mes deux, trois dernières années de réflexion sur le sujet de la recherche-création. Voilà.
Je vois le temps qui avance. J'ouvrirai peut-être la discussion aux questions, si vous êtes d'accord. Petite période de questions, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de gens avec nous. Ce serait le fun de les entendre.
La plupart de vous qui êtes encore là,